Well, thank you very much to both our speakers. And what I'm obviously charged is discussant, but in fact I'm going to keep that to the minimum under orders, partly because you probably don't want a 18th putting his muddy footprints all over the 19th century. But I think primarily because we've got lots of us here, I know we're going to be having no shortage of questions. So what I shall do is just start off by asking a question for each of our speakers to get us going and then throw it open to the floor. So I'll just give you a moment or two to think about what you want to ask. I think also, obviously, given our setup, I think it'd be a good idea if we take questions in both English and French and observations as you prefer. And probably in my case, we'll occasionally break down into a little franglais. But I'll begin with just a question for Michel. I was fascinated, you won't be surprised, there's somebody who has an interest in the way in which the provinces react relative to the centre in the pre-revolutionary period. Delighted to hear that the good citizens of Honfleur were not as easily pushed around by the news coming from Paris as we might sometimes be led to believe. Which obviously was something which made perfect sense to me. And you talked a lot about the way in which, when confronted with major events, the key word was hesitation. Stop, think, listen. It's almost like, you know, parents taking children across the road, you know, stop, look, listen before you act. And as you were talking about that, one of the things that you mentioned on more than one occasion were the networks of communication that they were plugged into. Which I thought were fascinating. Obviously, the deputy Tavo correspondence in that direction. I think if I understood right, at one point you mentioned also they were contacting Caen and the other societies, try and find out who's they're going to react. I was thinking, well, I wonder could you could sort of expand a little bit perhaps on that, because obviously, in a sense, this is the... We're told always that post-1789 there's an explosion, even compared with the earlier 18th century, of print, of news, of rumour, of information coming, newspapers. You know, they presumably have a whole vast area of correspondence and networks. And I wondered if you could say a bit more, perhaps, about that, just precisely how the members of the Honfleur Société are actually, you know, thinking and connecting to networks of news and information. So that was the question for Michel. And I was listening, obviously, with great interest to what Alan had to say about the army. And again, one of the things I was... Actually, to the end, you started to answer the question that I'd sort of got in my mind. I was sort of sitting here thinking, OK, yes, it all seems rather seamless or rather successful. What about the commune? What about 1848? You know, how does this image of the army manage to be one that seems to satisfy so many different groups, given, obviously, that the Republican tradition that you're talking about is not actually successful in terms of winning a majority in votes over the Orleanists and various monarchists and Bourbons, obviously, and legitimists, and so on and so forth. And even, as you say, the Republicans themselves are divided about what precisely Republicanism is going to mean. And so my question really, I suppose, it, partly you sort of hinted that, well, yes, it's the success of the whole memorial propaganda element, the Arc de Triomphe that you talked about. But I wondered if, you know, if you could say a bit more about how it deals with the problem of dissension or the problems that occur, like 1871, that might disrupt this image. And I suppose I'm just cheating, as again, bringing back the early modernist in me coming out. Where did Turenne and Condé and the great heroes of the Ancien Régime fit into this, or do they not at all?
Yes. Sorry. Bien, je vais vous répondre en français,
oui,
comme ça.
Oui.
J'ai absolument compris votre question, il n'y a pas de souci. Hein. Je dirais trois petites choses. La première, c'est que l'information circule entre Honfleur et les autres villes au passage, hein, entre Honfleur et Paris, via la presse, évidemment. Je veux dire, il suffit de se plonger dans les PV pour voir que des procès-verbaux, pour voir que justement ils achètent, ils ont une bibliothèque, ils ont un cabinet de lecture, donc ils s'abonnent à des journaux, ils s'abonnent, ils se désabonnent. Alors là, on voit bien les hésitations politiques aussi selon les titres qu'ils achètent. En l'occurrence, il y a des titres qui sont complètement rejetés en fleurs et souvent les plus radicaux. Hein. Le père Duchesne, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, n'arrive jamais dans la société de Honfleur. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Donc il y a la presse, il y a ensuite les voyages. exactement comme sous l'Ancien Régime. Hein. Je veux dire, les négociants de Honfleur ont l'occasion assez fréquemment d'aller à Paris pour leurs affaires. Donc, eux aussi, soit écrivent, soit quand ils reviennent, font des comptes rendus de ce qu'ils ont pu voir, de ce qu'ils ont pu entendre, y compris dans les clubs où ils vont en tant que spectateurs. Alors là, ça rejoint aussi d'autres choses. On pense entre autres à la circulation maçonnique dans l'Europe avant la Révolution. Il est évident qu'il y a une espèce, si j'ose l'expression, de maçonnerie jacobine, c'est-à-dire qu'avec les cartes de la société de Honfleur, on se fait admettre dans d'autres sociétés et on obtient des informations. Hein. Et puis enfin, ça pose un dernier problème. Alors celui-là, je le garde pour la fin, mais c'est le problème majeur, qui est le cas de Tavo. Je ne l'ai pas dit parce que je voulais tenir absolument en moins de 30 minutes, mais Tavo, c'est l'exemple archétypal du membre de l'Assemblée qui n'est pas classable comme Montagnard, qui n'est pas classable comme Girondin, et que donc les historiens, depuis deux siècles, mettent au centre ce qu'on appelle la plaine ou le marais. Et vous savez tous que quand on n'arrive pas à définir quelqu'un comme étant, je vais être simple, à gauche hein, ou à droite, on le met au centre. Et c'est un choix par la négation, par la négative en tout cas. Hein. Et ça pose le problème fondamental de ce classement, de la pertinence de ces classements politiques sur lesquels nous devrions en savoir un peu plus dans les années qui viennent puisque nous sommes entre trois universités, Rouen, Clermont-Ferrand et Lille, en train de nous lancer dans l'aventure d'un dictionnaire des conventionnels qui justement s'attardera beaucoup sur les classements politiques et notamment sur ce classement par défaut de la plaine. Mais je trouve que Tavo est un exemple archétypal en ce sens qu'il hésite lui aussi. Il hésite et dans ses courriers, on voit bien que ses hésitations se répercutent, hein, se répercutent sur les hésitations de Honfleur.
Thank you. I suppose the difficult period, indeed, for survivors of the Revolutionary and Imperial War was very largely the period of the Restoration, when there was little attempt by the government to compromise with them, putting them on demi-sold as soon as they appeared to have any political aspirations of their own, for instance, what was one gesture. The interesting thing, I think, was that even under the Restoration, they did not go back to the Ancien Régime style of professional army. And it would appear that in terms of the popular image of what had gone before, something had been retained. The idea that the sort of army that Napoleon had led had achieved what it had achieved because, to some extent, the image of a conscript army had some limited success. It's very interesting, I think, that under Louis XVIII, Gouvion Saint-Cyr is given the job of sort of organizing the first major military reform of the 19th century. Thereafter, you're absolutely right, of course, the polity through the 19th century is utterly fractured. As far as the attitude to this particular problem is concerned, it seems to me that the period of Louis-Philippe and Louis-Napoleon, that is to say the years from, shall we say, 1830 to 1870, have one thing in common, which is that it's a period that has a certain admiration for the armies of Napoleonic France. Louis-Philippe, in order to build up and burnish his own image, Napoleon III for much more obvious political reasons. But in this period, there isn't a great deal of change in the army reform, the kind of army that the government sets out to do. It keeps a limited conscription, but it's a limited conscription that produces a small number of men, a relatively small number of men, for a seven-year service, rather than a kind of exercise in citizenship for everybody, leading to all soldiers serving for 18 months or 2 years or whatever. Also, we have to say, apart from the Crimean War, there isn't a great European conflict in that period until, of course, the Franco-Prussian War of 1870. And that really is a very interesting turning point. I mean, the army that fights for France in 1870 and loses so disastrously is the army that is recruited under the Niel Law of 1868, so which is the last time they have a long period, 7 years of service for a relatively small number of men. If you look at the arguments and the image and the propaganda of the early Third Republic, that army is held responsible for France's defeat and France's humiliation at Sedan. What follows, during the Commune, is something that actually recalls much more the Levée en Masse, people rising in Paris, offering themselves, forming a popular army. In a purely military sense, that army doesn't do an awful lot better than the professional one before it. But somehow or other, in terms of its image, that image remains glorious. And for the Third Republic, all the responsibility, it seems to me, is put on the army of 1870, and the credit, where credit can be granted, is given to the bravery, the courage, the civism of the men who rose from the Paris Saxons. Of course, there is also the political problem of the division of the Republic and the anti-communard vitriol of the early years of the 1870s. But there's one thing that I think is permanent in the 19th century, and we should never forget, which is simply the survival of an enormous number of veterans from the Napoleonic army. I mean, you tend to think of one generation giving way to another. In 1856-57, Napoleon III, again, it was a great piece of political drama, decided to give the Médaillon de Sainte-Hélène to every survivor of Napoleon I's campaigns. 400,000 medals were distributed. That's 1857. That's 43 years after the end of the war. I mean, these people, and many of them had gone back to their villages, many of them had seen things that ordinary villagers hadn't seen. They were respected to some degree. They were admired for their experience. You've got a fairly large number of them who end up as school teachers, who end up as secretaries of the mairie, who are elected to mayoral office and so on. These people don't simply disappear. And I think that continuity, that sort of thread of continuity through the 19th century is an important one. According to a very minor article I did read in the department where I still go from time to time to reside in the summer, the last Frenchman to serve under Napoleon, by the way, died in 1894. He came from the Ardèche. But it does mean that you've got a whole century where there is a degree of continuity and the legacy of these wars has not actually fully been dissipated.
Juste un petit point, parce que ça m'a beaucoup intéressé ce que tu évoquais, et notamment quand tu évoquais le fait que ces soldats étaient d'abord des free men. Hein, je veux dire, fondamentalement, je crois que le lien entre la citoyenneté et la prise d'armes est essentiel pour bien comprendre cette armée de la Révolution française et encore de l'Empire. Et je crois, à contrario, que plaquer des schémas du 19e siècle, a fortiori du 20e siècle, et des mots aussi, hein, je veux dire, la caricature me semble le mot militarisme, ne fonctionne pas. Je cite un tout petit exemple. Je ne sais pas si tu as vu, à Paris en ce moment, il y a à Paris une exposition au Louvre intitulée L'Antiquité rêvée. Et l'Antiquité rêvée, le choix a été fait, c'est un choix, ça se respecte, hein, de s'arrêter en 1790. Moi, je veux dire qu'en tant que connaisseur de la période qui commence en 89, ça me gêne un peu parce que l'Antiquité a été importante pour ces gens qui étaient imprégnés justement d'Antiquité. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a une séance, une salle, qui doit être consacrée, si ma mémoire est bonne, au thème des héros. Très bien, pas de souci. Hein. Mais le cartel affiché sur le mur, hein, donc un petit texte assez court, évoque la vision du héros au XVIIIe siècle et se termine uniquement par cette phrase « La révolution et la vague militariste qui la suit ». Je crois que là, je voudrais te poser la question, il y a un contresens total, me semble-t-il. Je veux dire, le mot militarisme ne fonctionne pas. Je crois qu'on se prive des instruments de la compréhension fine, hein, sur ce phénomène de l'armée de la Révolution si on utilise le mot militarisme. Enfin, je voudrais savoir si tu es d'accord avec ça.
Puis-je y répondre à l'instant ? Oui, je crois que pour la Révolution elle-même, je suis absolument d'accord. Le problème, c'est peut-être l'Empire. Et même sous le Directoire, on pourrait faire un argument que c'était plus une guerre pour défendre la patrie en danger. Alors, est-ce que c'est le militarisme? Je ne crois pas. Est-ce que l'esprit du soldat représente un véritable militarisme? Je le crois même moins, franchement. Et quand ils décrivent leur motivation, le mobile par exemple, en offrant à servir, ce que je trouve remarquable dans ces comptes rendus, c'est l'aspect traditionnel. C'est le fait que, par exemple, on peut dire, bon, on m'a contraint de partir, je pars avec beaucoup de regrets, mais il me faut quand même faire mon devoir, faire mon service en tant que citoyen. il y en a d'autres quand même qui partent pour les raisons pour lesquelles les soldats sont toujours partis. C'est-à-dire il y a des arguments de famille, les pères, les potes, la maison familiale, etc. Et c'est une sorte d'aventure, une sorte d'évasion qu'ils recherchent en ce moment-là. Une dernière chose, la Troisième République, j'ai oublié entièrement, Julien. Turenne-Condé, oui, on commence encore une fois à exprimer une admiration pour les grandes traditions de l'armée française, oui.
Right, we'll open it to questions. Malcolm, naturally enough, I think you go first. And just to remind you, we were asked to, if you could just tell us who you are before you launch into
question. Okay, Malcolm Crook. Et si je peux profiter de ma situation un peu spéciale dans ce colloque, et d'abord en remerciant nos deux communicants pour des communications excellentes, très intéressantes, très riches. Mais je veux quand même diriger mes remarques vers Michel. Surtout parce qu'il, comme il venait de dire, j'ai travaillé il y a longtemps sur la ville de Toulon sous la Révolution. Et évidemment, j'ai étudié le cas des Jacobins, le club Jacobin de Toulon, dont les archives sont malheureusement moins riches que celles de la Société populaire d'Honfleur, parce que c'était les fédéralistes qui ont détruit ces archives la contre-révolution là-bas en 93. Mais quand même, comme lui, j'ai remarqué beaucoup d'hésitation de la part de cette société populaire devant les grands événements de la Révolution. Et d'abord, je devais vérifier cette adresse que j'ai trouvée à Paris, par exemple, concernant le maintien de la monarchie constitutionnelle en 91 à la suite de la fuite à Varennes de la part de Louis XVI. Et en effet, les Jacobins de Toulon ont bien félicité les députés d'avoir maintenu la monarchie quand même. Et deuxième exemple, c'est au cours des disputes qui se sont déroulées dans la Convention à Paris. Et en effet, au lieu de prendre parti pour les Jacobins ou même les Girondins, en effet, les Jacobins de Toulon ont déploré ces divisions qui font trop de problèmes dans la Convention. Alors, en fin de compte, certes, devant la crise dite fédéraliste de l'été 93, ils ont finalement pris parti pour les montagnards. Mais je demande quand même si c'était sous l'influence des représentants en mission, comme tu venais de dire, Michel, qui ont joué sans doute une grande influence en imposant les mots d'ordre qui sont venus de Paris. Et donc, ma question, en fin de compte, c'est que je crois que c'est peut-être assez facile d'établir une certaine autonomie de la part des Jacobins dans la période 91-été 93. Mais peut-être plus difficile, c'est de prolonger cette autonomie dans l'an 2, dans la période qui suit. Seulement, j'ai remarqué que dans la Provence, là où, comme à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, où on a rétabli les clubs jacobins à la suite de la crise fédéraliste, quand même devant une fédération de ces clubs en 94. On a même à Paris dénoncé un jacobinisme fédéraliste parmi ces clubs du Midi. Et ça peut-être suggère que quand même un certain élément d'autonomie de la part de ces clubs reste toujours, même en plein en deux. Voilà.
Thank you.
Ça va être un peu difficile de te répondre, puisque ce sont plus des observations qu'une vraie question. Je suis d'accord avec toi, évidemment. Hein. Simplement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est deux choses. C'est que les représentants en mission, que je connais bien, par définition, sont éphémères. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent, mais ils repartent aussi. Et moi, je me suis toujours posé la question de ce côté éphémère de leur action. Que se passe-t-il après, une fois qu'ils sont partis ? Hein? Donc il faudrait voir dans quelle mesure, et ça on peut le voir qu'avec l'aide des archives locales de façon très fine, dans quelle mesure les épurations sont réelles ou les épurations ne constituent pas des jeux de chaises musicales. Hein? Tu sais comme moi, pour l'avoir rencontré dans les archives, que souvent le maire perd sa place, mais il devient ceci, et celui qui était ceci devient maire, et ainsi de suite. Donc il y a des vraies fausses épurations, si j'ose utiliser une expression d'autrefois. Ça c'est le premier point. Ensuite, je crois qu'effectivement, en l'an 2, il y a une plus grande uniformisation, ça loin de moi l'idée de le remettre en question. Mais je crois que de ce fait, il est plus intéressant de se centrer sur cet avant, hein, et notamment cette période, grosso modo l'été 91, l'été 92, voire l'été 91, l'été 92, l'été 93, hein, d'un été à l'autre pourrait-on dire, parce que c'est justement à ce moment-là que se définissent ces opinions politiques, avec une situation politique à Paris qui n'est pas figée, qui n'est pas claire, et qu'il cherche à comprendre. Tu évoquais l'été 91. Le hasard fait que j'ai invité dans mon séminaire la semaine dernière un professeur de droit public qui a fait, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, Guillaume Glénard, qui a fait un livre sur l'exécutif et la constitution de 1791. Bon, c'est un sujet un petit peu austère aussi, et qui est absolument fabuleux derrière son austérité, parce que avec un langage qui est celui de l'historien du droit, et on n'arrivera pas, je crois, nous, à faire lire ce livre à nos historiens en herbe que nous avons parmi nos étudiants, avec son langage, avec la précision, avec le découpage des mots, non pas en 4, mais en 8, en 16, etc., il montre quelle était la conception de ce pouvoir exécutif dans la monarchie, qu'il appelle d'ailleurs non pas constitutionnelle, mais constitutionnalisée. Parce que si je suis son raisonnement, le roi n'a pas eu, il n'a pas été co-constituant. On lui a refusé le fait de participer à la gestation, à la naissance, hein, de cette constitution. Donc de ce fait, la constitution, pour résumer sa pensée, on lui a présenté, non pas pour qu'il la sanctionne, mais même pas à la limite pour qu'il l'accepte, mais pour qu'il accepte d'être le roi constitutionnel de cette monarchie-là. Mais telle qu'elle était faite, s'il refusait, la monarchie constitutionnalisée restait. Il suffisait de trouver à la limite un roi de rechange. Donc de ce fait, là où je veux en venir, c'est que de ce fait, cet été 91 et les hésitations prennent aussi une autre couleur. Moi j'ai eu pour coutume depuis des années de dire en 91, dans l'été, les républicains, après la répression, se taisent. Hein, et ils attendent de voir à l'œuvre cette monarchie constitutionnelle. Effectivement, même Camille Desmoulins se fait très discret. Le journal qui s'appelait Le Républicain disparaît. Il n'y a plus beaucoup d'articles ouvertement républicains dans la presse pendant les mois qui suivent l'été 91. Les semaines, puis les mois, si on va un petit peu plus loin. Il faut attendre l'automne pour que ça recommence. Bon. Mais ça n'est pas tant qu'ils attendent de voir cette monarchie à l'œuvre, c'est que cette monarchie-là est une monarchie, si on suit le raisonnement du collègue de droit, qui justement ne laissait pas d'autre choix au roi que d'accepter d'être le roi de cette monarchie-là ou de démissionner, si je puis dire. C'est-à-dire de redevenir un simple citoyen. Enfin, j'ai peut-être résumé un peu rapidement, mais du coup, ça donne une autre idée de ce choix de l'été 91 qui, à mon avis, est beaucoup plus fine. La fameuse fuite à Varennes, comme on dit, je déteste quand on dit la fuite à Varennes. Enfin, il n'allait pas à Varennes, hein. C'était pas le week-end à Varennes ou l'excursion à Varennes. Donc, ni l'étape gastronomique, pourquoi pas, ceci dit. La fuite avortée à Varennes ou la fuite lamentablement terminée à Varennes, tout ce que vous voulez, mais pas la fuite à Varennes, par pitié. Bon, la fuite, elle prend du coup un autre aspect, une autre couleur. Je veux dire, à la limite, je veux dire, ça n'est presque pas grave. Je veux dire, il refuse, on prend un autre roi. La monarchie peut fonctionner sans lui. Là où moi, j'ai toujours pensé, avant de lire ce livre, qu'il était la clé de voûte de la Constitution et que c'est justement pour ça qu'on le ramenait, qu'on voulait qu'il soit le roi. Non, il y a un jeu politique. Et un des enseignements majeurs de ce livre, je répète, très austère, très difficile de lecture, un des enseignements majeurs, c'est de montrer que le roi avait un pouvoir fort dans cette Constitution et que ce qui a fait l'échec de cette constitution, ce ne sont pas les tares internes de cette constitution. On a toujours dit que c'était une constitution qui ne pouvait pas marcher, qu'elle était bancale, que les procureurs généraux syndics, c'était une institution mort-née, patati et patata. Non, ce qu'il montre, c'est que c'est le jeu politique du roi qui refusait d'être le roi de cette révolution qui a saboté littéralement la constitution. Hein ? Il montre ça en 500 pages. Je le résume en une phrase, mais la phrase est sacrément importante.
Et du coup,
puisque personne ne reprend la parole, du coup, on parlera de Furet cet après-midi. François Furet, avec Rana Lévy, avait fait un livre intitulé « La monarchie républicaine ». Ça démolit également complètement cette idée-là. Hein. Je veux dire, lui dit « ça n'est pas non plus une monarchie républicaine, c'est une monarchie constitutionnalisée ». Je vous invite vraiment à le lire, ce livre.
Merci. Time for one more question. Or Julian, yes. Let's bring this.
Julian Jackson. No, it's a really short question. It was just for Alan. I just don't know what the answer is, but I seem to think, because you were talking about how strong the myth of the volontaire and so on is, and have you ever, do you remember what, or have you read what de Gaulle says about it in La France et son armée? Because in, obviously, we think of de Gaulle as the man who goes about l'armée de métier in the 1930s, but my memory of that book, but I can't remember, is that actually you find all the things you've talked about, even in de Gaulle, which, if it's true, would show, would, as it were, be even more force for your case, but I may be wrong.
No, I think you're absolutely right, Julian. It's one of these slightly ambiguous statements. He keeps talking about this moral force of the French army on the one hand, but he's also, of course, very interested in the technical competence of the French army and its generals. And there seem to be two arguments that go alongside each other. But essentially, France must be defended by its own people, and that's the argument that goes back morally all the way to the Revolution, if you like. But the other, which is, I think, there in de Gaulle from the beginning, is almost the glorification of strategy and tactical competence on the part of its great officers. And there he seems to talk a lot about the other tradition of the French army, that is to say the tradition that goes back to Turenne and Condé and all sorts of other people. It is possible in someone like de Gaulle to combine the two. The one thing I would ask is the context in which he is writing, because I suppose part of his case is against other army officers who are perhaps in the extremely right-wing, almost royalist tradition of the French army at the end of the 19th, beginning of the 20th century, and who would disregard completely, I mean, the argument about the moral force of the French citizen.
The same person, the year that de Gaulle's La France et son armée came out, which was 1938, we all now sort of go back to read it because we want to understand about de Gaulle. But in fact, no one read it because Vagon published his history of the army in 1938, which of course got a lot of publicity, and it would actually be quite interesting, I've never read it, to see actually how his history of the army, as it were, differs from de Gaulle's history of the army, and it would probably, you know, he would probably not find that in Vigon. Mm. It would be interesting to see.
I quite agree. I mean, I can't answer the question because I haven't looked at Vigon from that point of view, but I think it would be an interesting comparison to make, particularly in the light of, obviously, what happens subsequently.
Juste une petite question dirigée à Michel, et ça vient d'une ignorance totale de ma part, mais est-ce qu'il y avait un langage d'hésitation? Et ça existe, ça, on peut le construire, mais est-ce que ça existait au point de vue de vocabulaire pour ce dictionnaire, est-ce qu'il y aura des mots qui indiquent ça? Ou est-ce que ça a été déguisé?
Un langage de l'hésitation. Oui, non, ça je...
Difficile de...
Oui, oui. Si j'ose dire, langage de l'hésitation, oui, ça va être très dur. Dans le dictionnaire des conventionnels que l'on va mettre en route, que l'on a déjà mis en route, je pense qu'on ne fera pas, hein, parce que ce sera vraiment un dictionnaire biographique. et non pas un dictionnaire du langage des conventionnels. Hein. En revanche, pour avoir travaillé moi-même il y a un an, deux ans, j'ai déjà oublié, encore une hésitation, sur un autre langage, le langage populaire, puisque j'ai fait un vrai dictionnaire, celui-là, qui était le dictionnaire du langage du père Duchesne d'Hébert, hein, donc un langage un peu vert. C'est vrai qu'on pourrait chercher ce langage de l'hésitation. Je dois dire que dans les procès-verbaux des clubs jacobins tels que je les ai vus pendant une année ou tels que Malcolm les a vus et d'autres aussi, hein, ça paraît difficile de voir s'il y a un langage spécifique. Moi, je le vois davantage dans les actes, hein, dans les actes ou les non-actes, mais dans le langage, je ne crois pas trop. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, j'imagine que non. sur De Gaulle, un petit mot, hasard total. Hein, je regardais hier, parce que je l'avais dans mon cartable, enfin dans mon sac, parce que je l'avais acheté, c'est un incunable, un vieux que je n'avais pas. Il y a eu en 81, et c'est un joli hasard, c'est avril-mai-juin 81, donc avril-mai-juin, mai 81, c'est l'élection de Mitterrand. En avril-mai-juin, dans la revue que je dirige, donc les Annales historiques de la Révolution française, Jacques Gauthier a fait un article intitulé De Gaulle, historien de la Révolution et de l'Empire. Je crois que ce serait peut-être bien de retourner aussi à cet article-là, hein, parce que Gauthier ne faisait pas des articles sur n'importe quoi.
Puis-je revenir un moment à cette question du langage de l'hésitation, qui m'intéresse aussi de ce point de vue du fédéralisme. Langage de prudence, peut-être. Le problème que j'ai à cet égard, c'est que dans beaucoup de départements et beaucoup de villes, des représentants des commissaires sont passés, des villes soi-disant fédéralistes, pour encourager les autres à les soutenir. Et en général, et si on remonte dans la vieille littérature, on trouvera que sur 84, je crois, départements à ce moment-là, française, il y avait 63, 66, et même du 69, qui étaient sympathisants d'une façon ou l'autre du fédéralisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on ne fait que chiffrer les départements qui ont fait quelque chose, on a un total de 13 ou 14, je crois, c'est vers là. Ça veut dire probablement qu'un commissaire ou deux commissaires, on en voit toujours deux en même temps, arrivent dans une ville, disent très très gentiment que les Connais ou les Lyonnais ou les Bordelais sont horrifiés par l'esprit de Paris, le désir de domination de Paris, on en parle beaucoup en ce moment-là, et encourage aux gens de la Dorme, par exemple, la Dordogne, de les suivre. Et de les suivre, ça veut dire signer un procès-verbal en les soutenant, c'est-à-dire tenir un langage qui n'est pas ambigu, mais en même temps, ça veut dire permettre à notre armée départementale de passer sur votre territoire quand elle marche sur Paris. Alors, ce qu'on demande, c'est quelque chose de très, très dangereux. Et il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de départements qui sont vraiment poussés par la préservation de soi, par des questions de prudence. Si je prends la Drôme, pour un instant, qui est un département très intéressant, à mi-voie entre Marseille et Lyon. Et les Lyonnais et les Marseillais étaient très, très intéressés par l'opportunité que Valence, que la Drôme leur offrait. Ça pourrait créer une unité fédéraliste dans la vallée du Rhône, qui serait, à leur avis, très importante pour détourner la domination parisienne. Dans la Drôme, à Valence, il y avait un procureur qui était un bon ami de Robespierre, qui s'appelle Paillon. Et on supposerait que Paillon, dans son discours, serait très très patriotique, très robespierriste, très antifédéraliste, et jusqu'à un certain point, il l'est. Mais l'argument clé de Paillon, c'est que si vous votez pour le fédéralisme, si vous votez à vous joindre aux Lyonnais ou aux Marseillais, vous vous ouvrez à une rétribution terrible. Vous serez puni pour cela. Alors, il faut y penser. Et c'est, à mon avis, la préservation de soi, le sens de danger qui a déterminé que Valence est resté pour la montagne. Et ça, pour revenir à ces questions de montagnard girondin, si on prend par exemple le bouquin de Alison Patrick, qui a vieilli un tout petit peu, mais et qui a peut-être même des problèmes méthodologiques. Mais Alison Patrick, même pour la Convention, elle a de la peine à définir qui est girondin et qui est montagnard à des dates précises. Et la définition qu'elle offre, enfin, c'est une sorte de définition roulante. On prend des dates sur une période de 13 mois, je crois, et si un député vote comme tel pendant ces 13 mois, alors ça suggère qu'il est plutôt montagnard ou plutôt girondin. Mais c'est le mieux qu'elle puisse faire. Et si c'est le mieux qu'on puisse faire pour les députés dans la Convention, si on commence à penser aux militants locaux, par exemple, ça ne me surprend pas du tout qu'à Honfleur ou ailleurs, les sociétés populaires ne sont pas très, très certaines. Les Jacobins, et je ne veux pas dire des montagnards, les Jacobins de 90 ont donné le droit de, quel mot, de se lier à la cause jacobine, au réseau jacobin, la filiation, oui, à un club par ville. Et en général, on suppose que ce sont les plus radicaux qui se sont alignés avec les Jacobins. À Bordeaux, qui n'est que la troisième ville de France, ils ont choisi le club le plus modéré. Et pour la raison qu'ils refusaient toujours de permettre à un deuxième club de s'affilier aux Jacobins, ce club plus modéré est resté affilié aux Jacobins jusqu'au moment du fédéralisme en 93. Donc la situation, me semble-t-il, est beaucoup plus floue et beaucoup moins déterminée et rigide qu'on le supposerait. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, bons républicains, c'est peut-être la seule chose qui les unit, bons républicains en province, qui doivent, pendant l'été de 93, réagir contre des développements à Paris et décider comment le faire. Et ces décisions, à mon avis, ne sont pas prédéterminées. Ces décisions peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Pardon.
Have we got time for one more, Marc? We're running it. Just one quick last question.
En fait, je voulais poser Christophe Prochasson. Je voulais poser en fait deux questions, enfin faire deux remarques. Alors, je ne sais plus laquelle choisir, mais peut-être comme je sais, just a quick question. C'est que la leçon de méthode que vous venez de faire, c'est-à-dire sur la fluidité des identités politiques. Je pense qu'on peut la poursuivre très longtemps dans l'histoire politique de la France contemporaine, c'est-à-dire que cette fluidité, cette incertitude sur les appartenances, même de partis, et en tout cas sur les appartenances aux familles ou sensibilités politiques, à mon avis, elle dure jusqu'au moment où se structure véritablement des partis, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale et avec le surgissement du Parti communiste, parce que au fond, même jusqu'en 1914, les sages barrières qui sont tissées entre les différentes organisations politiques de gauche, pour la droite évidemment c'est un peu différent, mais de gauche, sont très très poreuses. Donc je crois que nous sommes là à un moment de l'histoire politique en phase de révision, de certitude, qui ont longtemps fait les ressorts de cette histoire politique et que plusieurs historiens sont à se battre pour une histoire, pour l'histoire du 19e siècle et début du 20e siècle, mais je vois avec beaucoup de plaisir que l'histoire de la Révolution est elle aussi concernée, alors même qu'elle a pu rétrospectivement servir de matrice à une histoire imaginaire, au fond, où tout était stable et où les identités étaient indiscutables. Voilà. Mais juste un mot, je voulais faire allusion aussi par rapport à votre communication, à cette controverse si française dont les Français ont le secret, qui vaut bien celle qui a opposé Furet et Soboul, qui concerne la guerre de 14 et la question du consentement patriotique qui oppose beaucoup les historiens entre eux. Et j'avais en tête que, au fond, on voit bien qu'en 14, le mythe qui est réactivé immédiatement, c'est celui des soldats de l'an 2, vous y avez fait allusion. Et je me demande si aujourd'hui, imaginons le pire qu'il y ait de nouveau une guerre de ce type-là, que ce mythe-là ne pourrait pas être réactivé. Et on voit bien que les hommes de 14 sont encore des hommes de la Révolution, d'une certaine façon, alors que nos compatriotes ne le sont pas. Quel mythe serait réactivé ? Là, je me tourne vers Julian Jackson. Je pense que c'est sans doute celui de la résistance qui serait peut-être le plus proche, qui d'ailleurs n'est pas sans relation aussi avec le mythe des soldats de l'an 2, etc., etc.
Un vrai problème scolaire.
Merci. Merci bien. Je n'exclus pas, bien sûr, cette possibilité-là. Et si on prend l'Algérie pour un moment, dans l'appel qu'a fait De Gaulle aux citoyens, aux jeunes conscrits qui étaient en Algérie, de rejeter les ordres de leur commandeur, on voit, je crois, des échos quand même d'un appel aux citoyens soldats pour défendre son statut de citoyen, pour se rappeler qu'il était avant tout français et non pas tout simplement un soldat du régiment Intel sous le commandant X. Est-ce que ça pourrait se refaire aujourd'hui? Question difficile. Je crois que dans une période de guerre, si la France était à se trouver sous attaque encore une fois, je crois que le discours dans l'éducation nationale, etc., serait sans doute semblable d'une certaine manière à ce qu'on a fait avant. Ce qui a changé quand même, c'est le caractère de la guerre. Et l'idée qu'on pourrait, au XXIe siècle, poursuivre une guerre avec une armée de conscrits, une armée de masse, avec peu d'entraînement et avec les outils nucléaires et conventionnels que nous avons, ça me semble la difficulté la plus grande, que la nature, le caractère de la guerre a changé et d'une façon qui rend moins à propos, je crois, la façon de se battre nationalement, comme on a fait par le passé. Je ne suis pas spécialiste, mais je soupçonne que la plupart des généraux et des officiers de l'armée seraient d'accord.
Right, well, we've hesitated a bit this morning in front of these political problems, but we can no longer hesitate in the face of lunch. So all it remains for us to do is to thank once again Michel and Alain for starting us off so well. So thank you very much to them.